Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Bernard Anthony, assisté d'Hortense Sauveur, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 22 mai 2019 de 18h à 21h et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Bernard Anthony au micro. Merci Franck à la technique. Merci aux dames qui prendront probablement vos messages nombreux, qu'ils soient courts s'il vous plaît. Je suis ce soir avec Cécile Montmirail.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous les auditeurs.
Je suis avec le Hortense Sauveur.
Bonsoir Bernard, bonsoir chers auditeurs.
Qui lira vos messages, du moins ceux que l'on pourra prendre s'il ne se télescope pas trop avec d'autres. Et naturellement, vous vous en doutiez, nous avons comme invité, nous l'avons eu quelques fois, souvent même à ce micro ici, parce qu'il est aussi l'avocat coordinateur de la DRIF, mais ce soir il est là principalement en tant qu'avocat de la famille Lambert et défenseur de la vie de Vincent Lambert. Bonsoir Jérôme Triomphe.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous.
Voilà. Alors, que d'événements médiatiques et quel déferlement. Alors, beaucoup de soutien, bien sûr, mais quel déferlement de haine, des morticoles, comme disait Léon Daudet, des mortifères. Et j'accorde le pompon parce que j'ai trouvé ça ce matin à Toulouse en prenant l'avion, la dépêche du midi, peine Vincent Lambert condamné à vivre. C'est-il pas beau ça, Vincent Lambert condamné à vivre. Ça, c'est le journal de M. Baillet, naturellement, dont on connaît les grandes orientations. Et l'orientation du Grand Orient, donc Romero et compagnie. Voilà. J'ai noté aussi, hier au soir sur LCI, l'extraordinaire haine contre ce jugement de Patrice de Planquette. Alors, monsieur de Planquette, pas ça, pas toi. Hein. Pas ça, pas toi, Patrice de Planquette. On t'a connu extrémiste. Hein. Oui, tu étais aux Grèces, mais beaucoup plus extrémiste que Alain de Benoist, qui lui a le mérite d'être sympathique tout au moins. Tu étais à l'Action française, mais dans une Action française, donc totalement fanatique et extrémiste. Ensuite, virage de Cuti. Et là, hier, tu oses sortir que les catholiques qui sont dans la défense de Vincent Lambert, ça n'est qu'un petit groupe d'intégristes non représentatifs. C'est embêtant, ça veut dire que le pape François, alors que j'ai vu hier au soir appelant donc à des soins particuliers pour Vincent Lambert, allant le lever de son CHU, ça veut donc dire, Patrice de Planquette, toi l'informateur religieux, que le pape François fait partie des extrémistes fanatiques intégristes. Ça, c'est top tout de même, non? Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Voilà, alors, cher Jérôme, je redis un simple mot ici, et puis on va sans doute vous questionner, même sûrement, et vous allez un peu parler, non, beaucoup parler. Voilà, alors, pour moi, cette journée a commencé, nous nous étions souvent entretenus dans les jours précédents, par un coup de téléphone. Je sortais de je ne sais plus quel rendez-vous dans la petite ville de Lavaur. Je vous avais trouvé un peu là, mais pas abattu. C'est ce que j'ai écrit sur mon blog. Vous étiez manifestement fatigué, épuisé, et en me disant, on se sera battu jusqu'au bout. Et là, je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Eh bien, vous avez fait ce qu'il y avait encore à faire, puisque vous vous étiez battu jusqu'au bout, et que cette fois-ci, vous l'avez emporté. Une nouvelle fois, vous l'avez emporté après la série noire de la CEDH. À la suite de toi, donc, j'ai eu un coup de fil de Cécile Montmirail, ici, me racontant qu'il y avait un flot qui grossissait de manifestants dont ils disaient leur indignation, mais là aussi, les médias, 200 personnes. Ah, si ça avait été une manif gaucho, ils auraient été 4000. Hein, là, 200 personnes. Il suffit de voir les photos, il suffit de regarder ce qui a été retransmis, notamment sur le Salon Belge, pour savoir que c'était du gros mensonge. On vit donc dans une époque de mensonges. Et je suis heureux aujourd'hui, d'ailleurs, mais vraiment très heureux, de lire un entretien que Michel Onfray a donné, un entretien de Michel Onfray donné, je ne sais plus dans quel journal, au moment où vous voyez cela, dans lequel il note les caractéristiques essentielles de la dictature nouvelle. Eh bien, notamment l'abolition de la vérité, la suppression de l'histoire. Il faut détruire la pulsion de vie, dit Onfray. Je retrouve là, mais avec un grand plaisir, quel bonheur de voir un Onfray dire ce que j'avais écrit dans le génocide français en 1980. Alors voilà, comme quoi, il faut toujours se battre. 40 ans après, quelquefois, les idées sont passées. Mais là, Jérôme s'est battu, vous étiez là, et en regardant la scène, au fond de vous-même, vous pensiez que c'était gagné.
Vous voulez la vérité?
Oui.
Parce que je peux aussi ne rien dire. La vérité, c'est que nous nous disions, nous nous serons battus jusqu'au bout, et que malheureusement, même si on espère toujours un peu, voilà, nous n'attendions plus grand-chose. Mais, moi, dans mon exercice d'avocat, depuis une vingtaine d'années, j'ai toujours su et qu'il fallait toujours se battre et ne jamais rien lâcher. C'est pareil d'ailleurs dans tous les domaines de la vie. C'est que il y a toujours quelque chose à faire. C'est enfoncer une porte ouverte d'ailleurs que de le dire, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a un recours, il faut le tenter. Voilà. Alors, si vous permettez, parce que vous avez abordé cette période qui a été difficile, hein, je ne vous le cache pas. Les jours qui ont précédé ont été durs, ils ont été longs. Nous avons travaillé, vous avez parlé de moi, mais c'est trop d'honneur, nous avons travaillé nuit et jour avec mon frère d'armes Jean Payot, avec toute notre équipe de médecins, d'avocats, mais Jean et moi, évidemment, principaux avocats, nous avons travaillé nuit et jour à partir du moment où le docteur Sanchez, le 10 mai, a décrété qu'il mettrait à exécution sa décision de mort dans la semaine du 20 mai. Alors, je redis tout de suite aux auditeurs qui peut-être n'auraient pas suivi que ce lundi 20 mai, le docteur Sanchez a arrêté les soins, l'alimentation et l'hydratation de Vincent et mis en place une sédation terminale. Ce n'est qu'ensuite qu'il a prévenu la famille. Honte à toi, Sanchez. Honte à toi pour ce que tu as fait. La postérité te regardera pour ce que tu as osé faire ce jour-là. Parce que il n'a pas voulu attendre qu'Anne, qui était en Bretagne, la petite sœur de Vincent, celle dont il était le plus proche, arrive, alors que la charge de famille, elle avait prévu de venir le lundi, puisque c'était dans la semaine du 20 mai, pour pouvoir lui dire au revoir. Pour pouvoir lui dire au revoir tant qu'il était encore éveillé, parce qu'on ne le redira jamais assez, Vincent n'est pas un légume. Vincent n'est pas un légume branché à des machines qui serait sans réaction et sans émotion. Eh bien, le docteur Sanchez, quand Anne a appris, comme tout le monde, comme nous tous, qu'à 8h43, les soins avaient été arrêtés et que Vincent avait été sédaté, Anne a appelé le docteur Sanchez pour lui faire part de sa colère et de sa tristesse. Et le docteur Sanchez lui a répondu « Madame, si c'est pour entendre ça, je préfère raccrocher. » Nous avons vécu toute cette journée dans l'angoisse. Nous avions déposé le matin même un ultime recours avant même de savoir qu'il mettrait à exécution, qu'il avait déjà mis à exécution sa décision, parce que ce qui ressortait de son obligation de médecin, ce qui ressort du code de la santé publique, ce qui ressort de sa déontologie, c'est que il doit accompagner les familles de celui qui est en train de mourir et il doit les réconforter, les membres de la famille. Déjà, violation délibérée de son obligation, comment réconforter la famille, les membres de la famille qui, à laquelle il s'est, auquel il s'est opposé depuis tous ces mois? C'était évidemment impossible, mais même cela ne l'aura pas arrêté. Et donc, il a arrêté ses soins. Nous ne le savions pas quand nous avons déposé notre ultime recours. Nous avions travaillé encore tous les jours qui précèdent à déposer d'ultime recours. Et le dernier, parce que nous avons été déboutés les uns à la suite des autres, vendredi soir, nous avions plaidé devant le tribunal de grande instance en invoquant, pour ceux qui sont un peu juristes, la notion de voie de fait. Parce que le juge naturel du centre hospitalier, qui est une personne de droit public, et c'est le juge administratif, mais il y a une antique jurisprudence, ça plaira évidemment pas à ceux qui veulent la mort de Vincent, qui s'appelle Arrêt Action Française de 1935, j'y peux rien, c'est comme ça, et qui a élaboré la théorie de la voie de fait, qui, devant un acte de l'administration qui est gravissime, qui dépasse tellement les pouvoirs qu'à l'administration, que l'administration perd le bénéfice de son privilège de juridiction, qui est celui du juge administratif, au profit du juge judiciaire, ultime garant des libertés individuelles. Cette notion a été un petit peu restreinte par le tribunal des conflits, qui est un tribunal paritaire entre juge administratif et juge judiciaire, et qui dit devant quel ordre de juridiction vont les affaires, et il a réduit aux questions d'atteinte à la liberté individuelle et de droit de propriété. Nous avons plaidé vendredi soir, en urgence, devant le juge judiciaire du tribunal de grande instance de Paris. Il ne s'attendait évidemment pas du tout à ce qu'on saisisse ce tribunal, qui nous a déboutés en disant « la voie de fait ne rend le juge judiciaire compétent qu'en cas d'atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, c'est-à-dire de l'atteinte à la liberté d'aller et venir. » Mais enfin, si l'administration porte un acte aussi gravement illégal à la liberté individuelle qui rendrait le juge judiciaire compétent, il ne serait plus compétent pour sanctionner le comportement tout aussi gravement illégal qui porte atteinte au droit à la vie. Nous avons, pour tout vous dire, nous avions déjà préparé l'appel avant même de plaider devant le tribunal de grande instance, et nous sommes tombés sur un avocat, encore un de plus, qui est venu se rajouter à l'équipe, qui s'est occupé de toute la procédure et de toute la paperasse, si j'ose dire, et qui, alors que des affaires même urgentes se règlent en plusieurs jours ou plusieurs semaines, a réussi à obtenir que nous plaidions lundi à 17h. Avant que nous sachions que les soins avaient été arrêtés. Et nous avons plaidé à 17h devant la cour d'appel. Cour d'appel composée de 3 femmes, première présidente de chambre, présidente de chambre et une conseillère. Et la première chose que j'ai faite, mais vous l'avez raconté magnifiquement sur votre blog, et je crois que c'est vrai, c'est de leur montrer la vidéo de Vincent. La vidéo de Vincent qui a été tournée dimanche par ses parents. Vidéo contre laquelle une plainte est portée par l'avocat de Rachel Lambert. Sordide action. Alors que Vincent n'était pas encore sauvé, voilà un avocat qui annonçait qu'il allait porter plainte contre ceux qui avaient tourné la vidéo, c'est-à-dire les parents.
Alors, il faudra peut-être, je vous coupe à peine une seconde, revenir sur Rachel Lambert pour les auditeurs qui sont nombreux ce soir, oui, qui pas forcément connaissaient les origines de l'affaire et je dois dire un peu les dessous de l'affaire pour expliquer cela. Donc,
Rachel Lambert, je précise tout de suite, est l'épouse de Vincent Lambert et a été nommée tutrice contre toutes les règles du droit. Ça a été validé jusqu'en cours de cassation. Contre tous les usages, contre l'avis du procureur de la République, contre l'avis du parquet général, contre évidemment notre avis, puisque dans les affaires où il y a un conflit familial, on ne nomme jamais comme tuteur un des membres de la famille, fût-il le conjoint. Jamais. Et pourtant, elle a été nommée tutrice, et confirmée par la cour d'appel, confirmée par la cour de cassation, alors qu'elle se bat pour la mort de Vincent, son mari. Moi, je ne jette pas la pierre, je ne juge pas de son cœur et de ses motivations, mais je constate les actes. Je sais que c'est difficile pour une femme, évidemment, c'est humainement difficile, mais on n'a jamais...
Qu'est-ce qui est difficile pour une femme?
Je comprends que ce soit difficile. Je vais vous dire, alors je fais cette parenthèse, le responsable de tout cela, c'est le docteur Carigère. Parce que Rachel, s'est occupé avec un dévouement incroyable de Vincent pendant 5 ans. Un dévouement incroyable. Un amour que personne ne peut lui le contester. Sauf qu'en avril 2013, le docteur Sanchez l'a convaincu, Carrigère, l'a convaincu qu'il fallait arrêter l'alimentation et l'hydratation. Je pense que tout le monde peut se mettre dans la tête d'une jeune femme qui est trentenaire à l'époque et qui à qui on annonce que bon, bah, peut-être elle va être libérée de ce qui est un fardeau, une charge. Humainement, je le comprends très bien. Qui plus est, si elle n'a pas de conviction très ancrée. Mais elle s'en est occupée magnifiquement. Mais sauf qu'à partir du moment où le docteur Carrigère, parce qu'il est très habile, il est très convaincant, l'a convaincu qu'il fallait arrêter, eh bien, elle s'est convaincue que c'était la meilleure solution. Elle s'est peut-être illusionnée. Elle s'est peut-être mentie à elle-même. Ça, je ne le juge pas. Mais en tout cas, elle a été trompée. Et elle a été trompée par celui qui devait justement l'éclairer et l'accompagner. Et quand le 11 mai 2013, Vincent est sauvé, je me souviendrai toujours de cette image terrifiante, terrifiante, de voir arriver Rachel, qui avait déjà pris ses dispositions pour partir en Belgique. Parce qu'on lui avait dit, Vincent sera mort dans quelques jours. Et je la vois arriver, nous sommes le 11 mai 2013, parce que ce qui s'est passé avant-hier... C'est la réitération de ce qui s'est passé le 11 mai 2013. C'est les soins qui ont dû être pris, qui avaient été arrêtés. C'est l'alimentation, l'hydratation qui avait été arrêtée.
C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est que comment Vincent tient Lambert coup tient le coup, continue à vivre après tant de choses.
Mais tant d'acharnement. Cela stupéfie tous les spécialistes qui disent, mais après 4 procédures collégiales, après tant de procédures, personne, il n'est pas possible de dire qu'il aurait voulu mourir, parce que ces patients-là, même s'ils n'ont pas de conscience totale, même si leur conscience est altérée, ils ont des s'ils veulent partir, ils se laissent aller, ils meurent en quelques jours, voire quelques heures. Même sans infection intercurrente, même sans comorbidité, même sans signe avant-coureur. Ils le disent tous. Vincent a une force incroyable. C'est incroyable. Et je disais que le 11 mai 2013, ça fait 31 jours que Vincent n'a pas été alimenté et qu'il a une hydratation réduite à 20 centilitres, chers amis. 20 centilitres d'hydratation, c'est par l'équivalent jour d'un verre de muscadet par jour. C'est-à-dire que, songez, et je l'ai dit aux journalistes pas plus tard qu'hier à Reims, je leur ai dit, Vincent n'a pas été hydraté pendant 24 heures, il n'en mourra pas, puisqu'on reprend l'hydratation, l'hydratation a été reprise. Mais songez, leur dis-je, ce qu'a été votre état quand une journée d'été, vous avez été privé de boire pendant une journée, à chercher désespérément une bouteille d'eau. Eh bien, c'est ce qu'a vécu Vincent. Pendant 24 heures, encore une fois, en 2019, après l'avoir vécu pendant 31 jours, avec un petit peu plus d'hydratation. Alors certes, on fait des soins de bouche, on humecte la bouche pour atténuer la sensation de foie, soif, mais qui est là pour dire ce qu'il ressent? Eh bien, j'ai vu Rachel arriver le 31 mai 2013, soutenue par sa sœur Marie, comme si on venait de lui annoncer que son mari était mort dans un accident de voiture. Effondré. Alors qu'on venait de lui annoncer qu'il allait vivre. Moi, je comprends le choc psychologique. On lui avait dit qu'elle allait pouvoir être libérée, passer à autre chose. Mais tout ça, c'est Carrigère qui l'a fait. Tout ça, c'est Carrigère qui est responsable de tout ça. C'est le docteur Carrigère qui est responsable de l'explosion de toute cette famille. Alors attention, je n'excuse rien de Rachel. Je n'excuse pas, je comprends cet état psychologique qui a été causé par toutes ces annonces et ces contre-annonces. Mais ce que je n'excuse pas, c'est son acharnement aujourd'hui à ce qu'il meure et au prix eh bien, de ce prétendu témoignage sur la prétendue volonté de Vincent. Parce qu'elle nous explique qu'elle ne veut pas le faire mourir, elle veut juste que soit respectée sa volonté. Qu'est-ce qu'elle en sait de sa volonté?
Pardonnez-moi, Jérôme Triomphe, mais vous nous expliquez cela concernant Madame Lambert, hein, puisque c'est Rachel,
précisons, parce qu'il y a Viviane, la mère.
Rachel Lambert. Enfin, aujourd'hui, si on veut être, entre guillemets, libéré d'un fardeau, il n'y a pas que la mort possible.
Non, mais,
on peut divorcer.
Non mais attention.
Et donc pourquoi?
Mais parce que c'est encore un problème psychologique. Vous pensez bien que Rachel, qui a été décrite, qui a été dépeinte, qui a été portraitisée, si je peux dire, comme une madone des temps modernes. Nous avons des articles de presse avec des photos d'elle en madone. L'image de la madone qu'on a construite d'elle la piège elle-même. Elle a été piégée par tout ce qu'il y a autour de cette affaire, les médias qui s'en sont emparés, le rôle qu'on lui a fait jouer, qu'elle a bien voulu endosser, je l'entends bien. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas divorcer. Ça serait abdiquer le rôle de madone qu'on lui a donné. Ça serait atténuer la portée de son témoignage qui est seul à permettre la mise à mort de Vincent. Divorcer aujourd'hui, ça serait évidemment... dire, bah oui, elle veut refaire sa vie. Donc elle est dans l'impossibilité psychologique de le faire. Et dans son combat, c'est impossible. Mais attention, j'ai dit que je comprenais les ressorts psychologiques qui avaient été les siens, mais je ne l'excuse pas parce que ça fait depuis 2013 que nous lui disons, et même avant, c'est les parents de Vincent lui disaient, Rachel, on te laisse toute ta place d'épouse. On ne veut pas intervenir, on ne veut pas s'immiscer dans ton rôle d'épouse, mais si demain tu craques, si demain tu n'en peux plus, demain tu lâches prise, sache que nous sommes là pour prendre le relais. Évidemment, mais je n'ai jamais justifié qu'elle puisse vouloir la mort de Vincent, mais je dis que cet état, c'est-à-dire la situation qui est celle de Rachel à vouloir se battre pour la mort de Vincent, c'est un état psychologique qui a été créé par le docteur Carrigère.
Parce que il y a aussi un autre aspect dans le pouvoir qu'elle détient, c'est cette question du transfert.
Eh bien, bien sûr, mais parce qu'aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé en 2013, elle se bat depuis 2013 pour la mort de Vincent et elle s'oppose au transfert.
Oui, évidemment. Il faut quand même expliquer aux auditeurs et de Radio Courtoisie que Vincent Lambert est dans un hôpital, mais il n'est pas dans une section qui correspond à son
Vincent,
handicap.
Alors, le problème, c'est que là, on refait toute l'histoire. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne à ce qui s'est passé lundi, et puis ensuite, on refera effectivement toutes ces questions qui sont fondamentales, parce que c'est le nœud du problème, et c'est ce qui va permettre à Vincent d'être sauvé. Donc, je vous disais que lundi, nous avions cet ultime recours, lundi 20 mai, et j'ai montré cette vidéo de Vincent à la cour, à ces trois femmes dont je ne dirais pas assez le courage parce que, comme tous les juges qui un jour ont rendu des décisions courageuses, la cour d'appel prend des sauts sur la tête d'invectives et d'injures et de crachats. Moi, ça ne me dérange pas, je suis avocat et j'ai plutôt tendance à penser que les sauts d'injures que je reçois depuis avant-hier, parce que je vous dirai pourquoi, sont très bons signes et démontrent que ils sont en fait...
aux abois.
Aux abois, scandalisés, horrifiés et en réalité tétanisés.
Jérôme Trillon, oui. Il y a des messages. Alors, je ne vais pas lire les messages d'enthousiasme, de félicitations.
Si, c'est bien tout. Ça.
Non. Vous en avez suffisamment, on est là autour de vous. C'est très bien. Voilà. Je crois que quelqu'un n'a pas compris, un auditeur, cher auditeur, qui dit comment peut-on être nommé tutrice contre la Cour de justice, etc. Pourriez-vous rappeler toutes les cours de justice qui étaient contre pour que nous les notions
ça a été validé par tous les tribunaux,
voilà, cher auditeur,
jusqu'à la Cour de cassation.
Vous avez compris l'inverse, voilà. Il fallait le redire peut-être. Voilà. Alors ensuite, en vertu de quoi le CHU de Reims est-il propriétaire de Vincent Lambert ?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'il y a la tutrice qui bloque en fait tout le transfert et qui a, en réalité, s'est fait nommer tutrice et a utilisé sa fonction de tutrice en détournant le droit de la protection des majeurs, dans le but de permettre la mort de Vincent dans ce CHU qui, manifestement, a donné toutes les garanties qu'il le ferait autant que possible, et pour bloquer tout transfert. C'est une très bonne question, cher auditeur, parce que figurez-vous qu'avant que Rachel Lambert soit nommée tutrice en 2016, nous avons réclamé le transfert au CHU, judiciairement. Et au CHU, le docteur Carrigère s'y est opposé, de quel droit ? Mais il avait pris en otage Vincent. Il avait décrété que Vincent était très bien ici parce qu'il connaissait tout le monde. Ah bon ? Eh bien, et avant qu'il
donc,
y arrive,
il connaît. Alors.
Oui,
c'est ça.
Oui, non mais, ils n'ont cessé d'être incohérents. François Lambert, dans un article récent, c'était à El País, en Espagne, expliquait. Moi, j'y suis pas allé depuis janvier, donc ça faisait depuis 4 ou 5 mois quand même, parce que je ne veux pas je veux pas l'embêter avec tout ce monde autour de lui. Voilà. En réalité, tous ces gens-là se mentent à eux-mêmes, mentent aux autres et se mentent à eux-mêmes parce qu'ils savent très bien qu'en réalité, Vincent perçoit tout ce qui se passe autour de lui. ça me paraît une évidence. Mais donc le CHU...
C'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation.
Mais bien sûr.
Qu'il n'y a pas de perception.
Et puis François Lambert... Et François Lambert dit par exemple dans un autre article que Vincent est déroutant parce que quand vous entrez dans la pièce, il vous regarde. Et comme quelques cinglés pseudo-médecins qui ne connaissent rien à ces patients ont décrété que c'était des réflexes, eh bien lui, ça l'arrange bien. Puisque ça permet de se battre contre ces hystériques d'intégristes, ça permet de justifier son combat, et eh bien il reprend, il bêle le fait que ce sont des réflexes. Sauf que les vrais spécialistes, ils disent non, ce n'est pas des réflexes. Un patient dans l'état de Vincent qui suit des yeux son entourage, c'est un signe de conscience. Alors, nous aurons d'autres questions, mais sur la prise en otage, c'est très intéressant parce qu'effectivement, Vincent a été pris en otage par le CHU. Tant qu'il n'y avait pas de tutrice, nous avons réclamé le transfert, il nous a été refusé à la fois par le CHU, mais également par les tribunaux. Donc, une fois que Rachel était nommée, eh bien, c'est elle qui a tout bloqué. Nous avons demandé le transfert parce que le code civil permet... aux personnes, aux membres de la famille qui ne sont pas tuteurs, de saisir le juge des tutelles aux fins de transfert. Madame Jennifer Picouri, juge des tutelles à l'époque, nous a déclaré irrecevable à demander le transfert. Aujourd'hui, elle est présidente du tribunal de grande instance de Chalon. Elle a eu une belle promotion. Je n'imagine pas que ce soit à cause de ça, mais je dirai un jour tout ce que nous avons eu à lire sous la plume de certains juges. Et ça a été confirmé par la cour d'appel qui nous a déclaré recevable, mais en disant que non, il n'y avait pas lieu à faire un transfert dans une unité spécialisée où on s'occupe de ces personnes de manière merveilleuse. Et la cour de cassation nous a déclaré irrecevable. Alors vous voyez, trois juges différents, trois décisions différentes, mais au final, pour le même résultat, Vincent reste pris en otage dans le couloir de la mort qui est devenu ce sinistre service de soins palliatifs. Vous avez posé la question, d'ailleurs, il n'a rien à faire en soins palliatifs. Alors, abordons-le tout de suite. Il y a une circulaire du 3 mai 2002 qui a été signée sous l'empire du ministère de la Santé par Bernard Kouchner, qui est pourtant un pro-euthanasie, la veille de son départ, hein, pour tout vous dire. La veille de son départ du ministère de la Santé, 3 mai 2002, une circulaire qui relative aux établissements pour les patients en état végétatif chronique ou état post-irrationnel. Et où on décrit tout le cahier des charges de ces services qui doivent être des unités de vie, avec des projets de vie, en lien avec les familles, avec des soins spécifiques, de stimulation, de mise au fauteuil quotidienne, de kinésithérapie quotidienne, d'ergothérapie, de massothérapie, avec des séances nouselaines, comme on dit, c'est pas dans la série circulaire celle-là, mais c'est des séances tout à fait étonnantes qui stimulent les patients. Moi, je suis allé visiter une de ces unités, c'est merveilleux. On dorlote les patients là-bas. Alors que Vincent, lui, il est couché toute la journée dans une chambre fermée à clé, avec une caméra, un babyphone et un hublot pour pouvoir regarder de temps en temps... comment il va. Et donc il n'a rien à faire dans le service de soins palliatifs, parce que le service de soins palliatifs, c'est une philosophie totalement différente d'un service de vie, d'une unité de vie comme ces unités spécialisées. Les services de soins palliatifs, on accompagne généralement les patients vers la mort. La durée moyenne d'un séjour en soins palliatifs, c'est 15 jours. Vincent, ça fait 7 ans qu'il y est.
Bah oui.
Parce qu'il n'a jamais été en fin de vie. Et d'ailleurs, excusez-moi, ça part peut-être un peu dans tous les sens ces explications, mais les choses me viennent comme cela. Le 9 avril 2018, quand le docteur Sanchez, Vincent Sanchez, qui était gériatre à Sarreguemines, j'ai rien contre, ma belle-mère a commencé à y mourir dans cet hôpital. Il était gériatre à Sarreguemines, il se retrouve propulsé chef de service d'un grand service hospitalier, d'un grand hôpital universitaire dans une grande ville de France. Mais comment il est arrivé là? Comment, moi je pose la question. Voilà. Le 9 avril 2018, quand le docteur Sanchez décrète que Vincent doit être privé d'alimentation et de déshydratation jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est pas dit comme ça, c'est dit léonétiquement. Parce que Vincent doit mourir léonétiquement. N'oubliez pas de mettre un H à léonétiquement. Il dit, et à partir d'aujourd'hui, Vincent Lambert est transféré en soins palliatifs. Sauf qu'il n'a jamais bougé de sa chambre. Sauf qu'il n'a jamais changé de soins. C'était un transfert symbolique. Il était dans l'unité cérébro-lésée. Il se retrouve en soins palliatifs, avec la même chambre, les mêmes soins, le même personnel. c'est-à-dire rien de plus, rien de moins. Donc, il n'avait rien à y faire. Nous nous sommes battus pendant 6 ans pour qu'il sorte de cet endroit où il n'avait rien à faire. Et depuis 6 ans, tout est bloqué. Alors attention, ce n'est pas terminé parce que la donne a changé. La donne a changé. Nous sommes le 20 mai dernier devant la cour d'appel et je dis aux 3 magistrates qui sont là, mesdames, avant de plaider l'ultime plaidoirie pour Vincent Lambert, parce que c'est notre dernier recours, il est en train de mourir aujourd'hui. On est en train de le faire mourir. Je voudrais vous montrer une vidéo pour que vous sachiez celui dont vous tenez entre vos mains la vie. Parce que Vincent est un être de chair et de sang. Est-ce que vous permettez que je m'approche avec cette vidéo ? La présidente m'a dit, venez. Dans cette grande salle de la première chambre civile, cette salle majestueuse, où il y a peut-être 20 mètres entre les bancs des plaidoiries et la cour, et je leur ai montré cette vidéo. C'est une vidéo qui a été tournée par Viviane et Pierre quand ils sont rentrés dimanche, après la manifestation que tout le monde a vue sur Internet, sur les réseaux sociaux, aux informations, où on voyait Viviane pleurer. Ils sont rentrés dans cette chambre et quand Vincent les a vus, il a pleuré. Vous avez tous vu cette vidéo. Elle a été publiée par un hebdomadaire sur son site internet. Moi, j'avais la vidéo originale que j'ai montrée à la cour. Et Vincent a pleuré parce que Vincent n'est pas un légume. Je n'ai jamais vu de légume qui pleure. Vincent a pleuré parce que il venait d'apprendre probablement par son cher médecin qu'il allait mourir à partir du lundi, le lendemain. Il a pleuré parce qu'il a compris ce qui allait lui arriver. Et la dernière fois qu'il avait pleuré, en tout cas devant ses parents, c'était en mai 2013, quand il était en train de mourir, privé d'alimentation, avec une hydratation réduite. Mais il a tenu le choc parce que le docteur Carigère écrira à ce moment-là, on lui avait laissé un peu d'hydratation, à l'époque nous ne savions pas faire.
Quel salaud.
Et Vincent a pleuré en 2019 comme il a pleuré en 2013. Nous avons réussi à lui sauver la vie en 2019 comme nous l'avions fait en 2013. C'est pas nous, ce sont des tribunaux, par nos recours certes, mais il y a eu une telle ferveur. Une telle conjonction de solidarité, de prière, d'amour, d'intervention, d'objurgation des uns et des autres. Tout cela est un effort collectif. Et je leur ai montré cette vidéo, une vidéo poignante où on entend Viviane dire à Vincent « Ne pleure pas, mon petit.
Oui.
Vincent, ne pleure pas. Vincent, on est là pour toi, ne pleure pas !» Et quand on entend ces mots déchirants d'une mère, et quand on voit Vincent, parce qu'on ne le voit pas bien sur la vidéo, mais...
Si, on voit.
Ses larmes coulaient.
Le regard est très...
Le regard, il est indiscutable, mais ses larmes coulaient. Et quand on et donc les 3 magistrats ont vu cette vidéo, mais toute la salle qui était pleine n'entendait que la voix de Viviane. Rien que ce cri déchirant d'une mère qui pleurait, qui disait « Mon petit, ne pleure pas, on est là pour toi. » Eh bien, rien que cela. Je pense que, à partir de ce moment-là, ces 3 juges ont compris que toute cette affaire était fondée sur un mensonge. Sur un mensonge sur l'état de Vincent. Sur un mensonge d'état relayé par les médias. Sur un mensonge qui était en train de permettre la commission d'un crime d'État. Et ces 3 magistrats courageux ont rendu une décision le soir, à 22h, qui sauvait la vie de Vincent. Alors, nous sommes sortis de là. Aujourd'hui, évidemment, les journalistes qui les intéressent, c'est de savoir quels sont ces réseaux intégristes qui défendent Vincent. Ah bon, intégristes, l'UNAFTC ? Catholique intégriste, l'UNAFTC ? Cette Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens ? Intégriste, le docteur Petit, qui n'a aucune religion, qui se bat avec tant d'amour et de dévouement pour son fils Antoine, je l'ai vu, qui est aussi relationnel, et qui est terrorisé depuis 6 ans, à l'idée qu'on puisse un jour dire à sa femme et à lui-même, votre fils Antoine, là, il a eu une infection, il est dans notre hôpital, on le prend en otage, il va mourir. des intégristes, tous ces 1700 familles, ces 1700 familles qui sont catastrophées, terrorisées, parce qu'ils savent que si Vincent meurt demain, c'est l'effet domino, et après qui? Les démons, les Alzheimer, tous ceux qui encombrent. Des intégristes, un intégriste, le professeur Emmanuel Hirsch, il va à Saint-Nicolas du Chardonnay, je crois pas.
Non, mais
et pourtant,
même...
il défend la vie de Vincent, ils défendent tous la vie de Vincent. Qu'il soit juif, musulman, catholique, mais
en l'occurrence,
ah ben non,
il va plutôt à la synagogue.
Mais c'est un professeur d'éthique médicale, remarquable, qui défend la vie des plus vulnérables sur tous les plateaux télé, la vie de Vincent avec une force, une détermination et des arguments qui sont ceux de la loi naturelle. Et quand j'entends, j'étais le 3 octobre dernier au ministère de la Santé avec mon frère d'armes Jean Payot, pour la présentation du livre blanc sur la prise en charge des personnes EVC-EPR, des patients EVC-EPR cérébro-lésés, pour la restitution d'une étude scientifique menée par l'université de Rouen sur la prise en charge qui devait être la leur. J'ai pas vu une réunion d'intégristes, j'ai vu une réunion de gens de toutes origines, de toutes religions, mais qui était là pour défendre la loi naturelle, pour défendre les plus faibles et les plus vulnérables d'entre les nôtres, simplement pour défendre notre modèle de civilisation. Alors nous sommes sortis de cette audience, la présidente a merveilleusement dirigé les débats. J'étais très inquiet, je dois vous le dire, parce que l'audience était très bien passée. Et quand les impressions d'audience sont bonnes, généralement les décisions sont mauvaises. Quand les audiences d'impression sont mauvaises, généralement les décisions sont inversement bonnes. J'étais inquiet. Mais elle avait posé les bonnes questions. Le CHU a osé, par l'intermédiaire de son avocat, dire de toute manière la sédation est irréversible. La présidente a dit « Qu'est-ce que vous racontez ?» De ces 20 mètres. Elle l'a remis dans ses buts depuis ces 20 mètres. Puisqu'elle appuie sur son micro, elle a dit « Qu'est-ce que vous racontez ?» La sédation est irréversible. Je vais couper la parole à l'avocat du CHU. J'ai dit, regardez, vous voyez, ils sont tout le temps en train de me couper la parole. J'ai dit, monsieur, mais confrère, j'ai dit, on parle de la vie d'un homme. Et je lui ai dit, mon confrère, fin de confondre le droit à l'irréversibilité de la sédation pour le patient qui la demande avec la réversibilité médicale. Voici une attestation d'un de nos médecins conseils que j'ai demandé ce matin, un quart d'heure après avoir appris la sédation et en sachant que, en espérant que nous plaidorions aujourd'hui, évidemment, il suffit d'arrêter l'hypnovel, en 2 heures, il se réveille. Nous aurons tout subi dans cette affaire. Nous sortons, n'hésitez pas à me couper parce que sinon je parlerai tout seul.
Oui, alors juste pour vous dire, Jérôme Trillon, un afflux de questions ou de remarques, mais vous répondez à toutes les questions qui sont posées.
Ne vous inquiétez pas.
Attendez. Non, mais au contraire, c'est très bien. Je veux juste dire, par courtoisie, on est à Radio Courtoisie, à ses auditeurs, qu'ils reconnaîtront bien que vous répondez à beaucoup de choses. Mais il y a aussi des questions. Voilà. Alors on va en prendre une.
Allez-y.
Une question. Une qui est assez classique, finalement, de la part de nos contradicteurs. Cet auditeur qui dit, vous dites que Vincent est conscient, notamment parce qu'il suit du regard les gens qui entrent dans sa chambre. Imaginez un seul instant qu'il souhaite, lui, en finir. Je pense que vous avez déjà pas mal répondu à la question, mais bon, peut-être...
Mais je vais y répondre parce que c'est un problème ontologique.
On ne sait pas s'il souhaite vivre ou pas, nous dit cet auditeur. Imaginez dans ce cas le calvaire qu'il vit. Je comprends votre combat, mais qui peut prétendre réellement savoir ce qu'il souhaite, lui? Pourquoi ceux qui souhaitent sa mort seraient-ils plus légitimes que les autres? Merci pour votre émission.
Alors, ce sont des questions évidemment fondamentales. La question du consentement, ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est le grand principe individualiste qui gouverne aujourd'hui notre droit. L'autodétermination, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, mais on oublie qu'on n'a pas de pouvoir sur tout. Admettons même qu'ils se disent « je veux mourir ». Nous, on ne s'en vend rien, premièrement. On lui fait dire qu'il veut mourir. Mais d'abord, tous nos spécialistes disent que ce n'est pas possible de dire qu'il veuille mourir. Parce que s'il voulait mourir, il suffit de lâcher prise. Il meurt en quelques heures. Je vais vous donner des indications. Les 4 derniers mois, il a fait 3 infections très graves. Au point que, mais vous allez tomber de votre chaise, la semaine dernière, ils l'ont emmené aux urgences pour lui sauver la vie.
Étonnant.
C'est la famille que nous défendons qui dit, mais attendez, il est évident que s'il faisait un arrêt cardiaque, vous ne le réanimez pas. Mais eux seraient capables de le réanimer pour pouvoir le tuer léonétiquement avec un H, s'il vous plaît. Ils seraient capables de le faire. Ils l'ont bourré d'antibiotiques à des doses de cheval pour juguler l'infection qui était la sienne. Mais Vincent n'en est pas mort. Et n'importe qui de ces patients qui veut se laisser aller, il se laisse aller, et malgré les antibiotiques, il part. Donc la question de la volonté, pitié, non. Je comprends cet auditeur, il pose la question.
Oui,
mais la réalité, mais vous avez raison, mais la réalité, c'est que les questions, chers auditeurs, que vous vous posez, ce sont de mauvaises questions, parce que ce sont des questions qu'on se pose quand on est bien portant. Ce sont des questions que l'on se pose quand on a toutes ses facultés, qu'on est bien portant et qu'on projette nos propres angoisses sur une situation que personne d'entre nous autour de cette table ne veut vivre. Personne ne veut être comme Vincent Lambert. Mais personne ne veut même avoir un bras de moins. Personne ne veut se retrouver en fauteuil roulant. Mais ce qui compte dans la vie, c'est pas l'idéologie. Parce que l'idéologie, elle combat la réalité. Ce qui compte dans la vie, c'est l'expérience. Et l'expérience nous apprend qu'en réalité, quand on se trouve dans la situation d'être diminué, d'être atteint dans ses facultés, y compris quand c'était tout, par exemple, pour un champion de courir avec ses deux jambes et de se retrouver sans jambes. Mais combien nous en avons vu qui se sont remis à courir avec des prothèses en Kevlar et d'être champion du monde? Eh bien, il y a des... Ça, c'est la force de l'être humain. C'est l'instinct de survie, et puis c'est la force de l'être humain qui est tout à fait prodigieuse. Vous avez le témoignage de Pozzo di Borgo. Philippe Pozzo di Borgo, qui est millionnaire, qui a donc quelques moyens, qui a une vie rêvée. Il fait un accident de parapente, il se retrouve tétraplégique. Il n'y a plus que la tête qui fonctionne. Il est en fauteuil roulant. Il a donné lieu au film Les Intouchables, nous en avons parlé plusieurs fois ici. Et il le dit, vous savez, si vous m'aviez demandé mon avis, j'aurais dit comme 98% des Français, faites-moi mourir. Mais pardon de vous dire, mais je suis heureux d'être en vie. Alors vous m'avez posé la question, cher auditeur, et je la comprends. Je la comprends comme je disais que je comprends l'état psychologique qui est celui de Rachel, en 2013, je comprends. Vous avez posé la question de savoir, mais si lui veut mourir, imaginez le calvaire qu'est le sien. Alors, je vais vous dire, vous avez le témoignage extraordinaire de Terry Wallis. Terry Wallis, T-E-2-R-Y, Wallis, W-A-2-L-I-S, allez voir sur Internet. Il a été diagnostiqué pendant 23 ans en état végétatif, c'est-à-dire sans manifestation de conscience. L'état qu'on a diagnostiqué à Vincent, qui est totalement contesté. Mais on l'a diagnostiqué végétatif et on l'a enfermé avec cette étiquette de légumes. Puisque c'est ça qu'on dit. Moi, j'ai jamais vu de légumes pleurer comme Vincent. Hein. Personne n'a jamais vu de légumes pleurer. Et Terry Wallis, au bout de 23 ans, un jour, se remet à communiquer. Et aujourd'hui, il parle. Par l'intermédiaire d'un ordinateur. Mais il parle. Il s'exprime. Et il explique que pendant 23 ans, en réalité, on l'avait mal diagnostiqué végétatif. Il était en loquet de syndrome, c'est-à-dire toute sa conscience enfermée dans un corps, sans pouvoir réagir. Et il a expliqué, cher auditeur, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, parce que il a dit pendant 23 ans, j'ai subi un calvaire. J'ai souffert ce que personne ne devrait souffrir. Parce que je hurlais dans mon corps, écoutez-moi, écoutez-moi, personne ne m'entendait. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être en vie.
C'est également ce que cette femme, j'ai oublié...
Angèle Yebi.
Voilà, une larme m'a sauvé.
Alors elle, ça a été beaucoup moins long, ça a duré quelques mois.
Oui, mais enfin néanmoins...
Mais Angèle Yebi, c'est évidemment également la question. Tout ça pour vous dire que ne remplissez surtout pas les directives anticipées que les assassins veulent vous faire remplir. Parce que les directives anticipées qu'ils veulent vous faire remplir, c'est des directives anticipées pour dire « faites-moi mourir ». C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent parce que ça facilitera le travail. C'est ça qu'ils veulent parce que ça sera tellement plus simple de ne pas avoir des salopards d'avocats qui entourent des intégristes de sales familles qui empêchent des mises à mort léonétiquement décidées. Non, ne les remplissez pas ces directives, sauf pour dire ne m'assassinez pas, ne me faites pas mourir de faim et de soif. Parce que j'ai d'autres témoignages aussi. Le professeur Ducrot qui me raconte ce témoignage d'un de ses patients qui lui a raconté qu'il se retrouve dans une situation à faire, alors j'ai plus les termes techniques, mais une syncope qui fait qu'il se retrouve en fait conscient, mais incapable de bouger. Et il a dans sa poche une directive anticipée disant « si je me retrouve dans une situation telle que je suis actuellement, vous me faites mourir ». Et pendant les 24 ou 48 heures qu'a duré sa situation, ou je dis 24, 48 heures, c'est peut-être quelques heures, le type a prié qu'il ne trouve pas le papier dans ma poche. Et ils ne l'ont pas trouvé. Et aujourd'hui, il est comme vous et moi. Alors ne commettez pas cette erreur, cher auditeur. Ne commettez pas cette erreur. Et Vincent, un, personne ne peut connaître sa volonté. Deux, si vous acceptez qu'on puisse tuer Vincent sur la volonté telle qu'elle a été rapportée par son épouse Rachel, vous prenez le risque que demain, l'un quelconque de vos proches, y compris quand il a un demi-neveu ou un cousin à la 8e génération, vienne dire la main sur le cœur, Pépé Marcel avait dit qu'il ne voudrait jamais vivre dans la situation qui est la sienne. Bon, si en plus vous avez la chance d'être l'héritier de Pépé Marcel, vous gagnerez évidemment des années sur l'héritage, mais si vous êtes Pépé Marcel, je vous garantis que ça sera plus difficile à vivre. Ne prenez pas le risque d'approuver cette mise à mort, parce que demain, c'est à nous que ça arrivera.
J'ai également une question d'un auditeur qui est dans le prolongement un petit peu de la question du précédent auditeur et qui là a trait à la problématique financière. Donc cet auditeur nous relate une remarque de Monsieur Calvi qui a dit « il faut aborder le problème de l'argent ». Effectivement, ça c'est un sujet aussi qui vient, il nous coûte cher. Donc ça montre aussi un peu le degré de notre civilisation actuelle.
Alors je vais vous répondre. Alors il y a deux questions, parce qu'il y en a une autre également que je viens de voir.
Oui, une loi. Alors également, ça c'est une auditrice qui nous demande, est-ce qu'il y a une loi qui interdit le divorce lorsque le conjoint ou la conjointe est malade ?
Non, il pourrait très bien divorcer. Ça, ce n'est pas une difficulté, mais je me suis exprimé là-dessus, sur les raisons qui, à mon avis, empêchent que Rachel demande le divorce.
Et du coup, pour rebondir également, qui hérite de M. Lambert ?
Voilà, c'est la troisième question. Alors, qui hérite ? Alors, ça dépend de son régime matrimonial, ça dépend de savoir s'il a fait une donation au dernier vivant. L'héritier de Vincent, c'est sa fille Clémence. Voilà. C'est sa fille Clémence, sauf si il y a une donation dernier vivant et que selon les régimes, dans ce cas-là, ça sera son épouse, mais il a rien, donc ça règle le problème. C'est pas pour l'argent que Rachel se bat, c'est évident. Ce qui n'était pas le cas du mari de Terry Schiavo aux États-Unis, parce que lui, il y avait, je crois, 800 000 dollars d'assurance vie à la clé. Il s'est battu, il a obtenu la mort dans des circonstances abominables. Je suis en lien avec son frère Bobby Schindler qui nous a écrit lundi et le cœur brisé, le frère de Terry Schiavo qui nous a dit si je dois venir en France, je viens pour vous soutenir et j'ai eu la joie de lui écrire en baragouinant quelques mots d'anglais pour lui dire Vincent est sauvé, merci. Mais il avait le cœur brisé parce qu'il a vécu cela pour Terry Schiavo, sa sœur, aux États-Unis. Et oui, Vincent coûte cher. Ben oui, Vincent coûte cher. Un malade du cancer en phase terminale coûte cher en soins palliatifs. Un malade du cancer coûte cher en chimiothérapie. Il y a beaucoup de gens qui coûtent très cher.
Les alcooliques coûtent très cher.
Les
alcooliques coûtent très cher et on les soigne. Les toxicos coûtent très cher.
Les séropositifs coûtent très cher très longtemps.
Et c'est l'honneur de notre société de les soigner.
De les entretenir.
Bien entendu. Et bien sûr qu'ils coûtent très cher. Mais ce qui est terrifiant, il y en a une qui a osé quand même le dire, c'est Monique Pelletier. Elle a été une des rares à dire combien nous coûte Vincent Lambert. Les autres n'ont pas osé. Mais elle a été l'expression des autres. Le docteur Carrigère l'a dit dans son livre. Il a fait un chapitre. Je suis médecin de santé publique, donc je ne peux pas non plus ignorer les réalités économiques. C'est vrai qu'il coûte cher. Ça rentre dans l'équation. Monique Pelletier, l'ancienne ministre de Giscard, qui est celle en réalité à qui on doit le maintien de Lola Veil, puisque c'est elle qui a soutenu en tant que ministre de la Santé, ou ministre des Femmes, je ne sais plus, en 1979, la reconduction de la loi Veil qui était initialement édictée pour 5 ans. C'est elle qui a revendiqué l'honneur de... Enfin, qui a eu l'honneur de soutenir la reconduction de la loi et qui l'a revendiquée. Je la connais, Monique Pelletier, je l'ai rencontrée, je lui avais acheté une voiture. Et je lui ai dit, parce qu'elle m'avait, elle avait fait une tribune dans Le Monde, disant le mal qu'elle pensait du militantisme des avocats des parents de Vincent Lambert. Et je lui ai dit, une fois que nous avions signé les papiers de la voiture, vous savez que vous avez dit le plus grand mal de moi. Et elle a dit, ah bon ? Et je lui ai dit, oui, je suis l'un des avocats des parents de Vincent Lambert. Et nous avons discuté très aimablement et très urbainement pendant une demi-heure. Et je pense que nos points de vue seront irréconciliables. Sachant qu'elle a accompagné son mari qui, pendant les 20 ou 30 dernières années de sa vie, c'est public, hein, je ne trahis aucun secret, qui s'était retrouvé dans une situation très diminuée à la suite d'un AVC. Voilà. Mais cette question de l'argent avait été abordée par Monique Pelletier, l'ancien ministre de Giscard, disant « Vincent Lambert nous coûte cher ». C'était une des seules avec le docteur Carigère. C'est pas le motif explicite de Dr. Carigère, mais tout cela est abordé. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui coûtent cher, mais c'est l'honneur de notre société d'abord de les soigner. Et le pire, c'est que Vincent coûterait 3 fois moins cher dans une unité spécialisée. Puisque la journée de soins palliatifs à Reims, c'est 900 euros à peu près. Et qu'une journée en unité spécialisée, c'est 300 euros. Voilà. Ce qui vous démontre qu'en réalité, ils mettront le prix pour le tuer.
Bernard, j'ai une question d'un auditeur qui vous demande s'il y a d'autres Vincent dans les hôpitaux. Pensez-vous... Oulala, excusez-moi, je découvre la question. Pensez-y qui peut-être nous écoute avec leur famille et qui pense que leurs enfants peuvent être sauvés.
Oui, je ne suis pas spécialiste des hôpitaux. En revanche, j'ai écrit souvent, et j'ai parlé souvent sur le fait que le cas de Vincent Lambert, évidemment, c'est une personne, c'est la vie d'une personne qui est en jeu. Mais si ce verrou, si je puis dire, saute, si on peut tuer Vincent Lambert, ça sera des milliers qui seront tués. Alors, je ne sais pas s'il y a dans son cas 500, 1000, 1500.
Ils sont 1700.
1700, voilà. Vous avez déjà répondu, il est vrai tout à l'heure, Jérôme. Donc, mais ce que je sais, c'est que là, c'est un verrou qu'on fait sauter.
Mais ces 1700, dans sa situation de conscience altérée. Mais il y a à côté de ça les déficients mentaux, dont les structures cérébrales sont totalement intactes, mais qui sont handicapés mentaux. Et il y a les déments qui ne sont pas cérébrolésés. Il y a les Alzheimer qui ne sont pas cérébrolésés. Il y a tout ce qui encombre.
Et ça, c'est la porte ouverte à ce qu'on a connu. Alors, je ne suis pas toujours pour revenir aux années les plus noires de notre histoire. Là, pour le coup, hélas, oui, on doit bien rappeler que le régime nazi avait ordonné, comme cela, la mise à mort de tous les handicapés, de tous les anormaux. Face à cela, s'était levé un évêque immense de courage, Mgr von Galen. Voilà ce qui est en jeu.
J'en reviens au 20 mai, parce que cette journée, je dois vous dire que, chers amis, si je vous en parle, c'est que je crois que cette journée sera un des plus beaux jours de ma vie d'avocat. C'est le plus beau jour de ma vie d'avocat, et c'est le 5e ou 6e plus beau jour de ma vie après mon mariage et la naissance de mes enfants. Ce qui vous permet de calculer combien j'en ai. Mais c'est le plus beau jour de ma vie d'avocat. Nous sommes avec Jean Payot, nous sortons avec une équipe merveilleuse d'avocats, un journaliste, un vrai journaliste hein, de la chaîne KTO m'interroge et il me dit qu'est-ce que vous avez comme réaction par rapport à ces une douzaine d'avocats qui étaient venus en robe pour nous soutenir. Mais ils sont l'honneur du barreau, parce qu'ils sont venus rappeler que notre mission d'abord, c'est de porter la parole, advocare, de porter la parole de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. D'abord de celui... le marlou qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer, ne sait pas se défendre, mais aussi celui qui n'a plus de voix. C'est ça notre mission. C'est de porter la parole de celui qui ne peut pas parler, du plus faible, du vulnérable, du sans défense. Et je dis, ils sont l'honneur du barreau parce que eux, ils sont venus rappeler par leur présence silencieuse que, eh bien, c'est dans ces moments ultimes qu'on reconnaît également la grandeur de la justice. Et elle s'est grandie lundi soir. Il est 19h30 quand nous sortons, après 2h15 d'audience. Où j'ai dit d'ailleurs à la cour en terminant, la première fois que je me suis levé pour Vincent Lambert, c'était le 11 mai 2013. Et j'avais le sentiment ce jour-là d'être le premier avocat depuis 1978, qui est la dernière affaire qui a été plaidée pour un condamné à mort. J'espère que c'est la dernière fois que je me lève. Et je leur ai dit, ne prenez pas la responsabilité de la mort de Vincent. Nous sommes sortis avec Jean Paillot, et puis nous sommes allés rejoindre avec ces merveilleux confrères le rassemblement spontané qui avait été organisé en quelques heures, avec des milliers de personnes. Claire, Cécile vous en parlera forcément mieux que moi, parce qu'elle était là. Cécile, je l'ai entendu pleurer sur Vincent. Me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore? J'ai dit, t'inquiète pas, il y a toujours quelque chose à faire et on continue à se battre. Mais Cécile a vécu intimement ces instants, depuis des années, des mois et encore ces dernières heures. Et nous sommes allés rejoindre cette foule fervente, pacifique, déterminée, devant le ministère de la Santé. Nous y avons été accueillis, Jean Paillot et moi, nous avons dit quelques mots. J'ai dénoncé le crime d'État qui était en train de se commettre en désignant Madame Buzyn, en disant que c'était une menteuse d'État. Et je le réitère. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et ensuite, nous sommes partis et nous avons marché vers l'Élysée, entourés de CRS. Ça s'est très correctement passé. Il n'y a pas eu de tir de LBD. Tout le monde était pacifique. Et c'était très digne. C'était très digne parce que ceux qui défendent la vie ne sont pas des assassins. Ceux qui défendent la vie ne sont pas des violents. Ceux qui défendent la vie sont des pacifiques. Et il y a eu quelques slogans, mais les principaux slogans étaient les plus frappants. C'était des slogans silencieux, le pouce levé en l'air pour Vincent. Nous sommes arrivés sur cette place du rond-point des Champs-Élysées et tout le monde s'est assis. Nous avions annoncé que nous attendions la décision pour 22 heures. Tout le monde s'est assis et j'ai demandé, il y a eu quelques interventions, et j'ai demandé à la foule, je leur ai dit, nous attendrons la décision avec vous. Nous l'attendrons ensemble. Et je leur ai dit, si la décision est bonne, nous pourrons laisser éclater notre joie. Mais si la décision est mauvaise pour Vincent, pour sa famille, nous garderons le silence. Et nous avons attendu. Une demi-heure. Je savais que la décision était rendue. J'étais en lien avec notre avocat postulant à la cour qui attendait la décision. Et alors que nous n'espérions plus rien, il m'appelle et il me dit « C'est gagné ». Et là, vous connaissez... ces images spontanées, je me lève et je hurle, on a gagné. Et là, une clameur immense monte de milliers de poitrines généreuses et qui hurlent leur joie. Cette joie, personne ne nous la retirera, malgré les sauts de haine, les sauts d'injures qu'on déverse sur nous à longueur d'heures et d'émissions depuis lundi soir. Personne ne nous la retirera. Cette joie pure qui était la nôtre. Cette joie généreuse, cette joie qui n'était pas égoïste, parce que c'était pas une joie pour nous-mêmes. C'était une joie pour Vincent. C'était une joie pour les pleurs de sa mère, qui ont été séchées ce soir-là. Pour les angoisses de ce père, qui ont été calmées immédiatement. Et pour David, pour Anne. Et une joie pour ces milliers de patients et de ces familles qui étaient dans l'angoisse et qui se disaient, si Vincent meurt, dans quelques jours, c'est fini pour les nôtres. Cette joie pour... tout ce combat pour la défense de ce malheureux Vincent qui pleurait, dont on continue à dire que c'est un légume branché à des machines et qui pleurait. Les larmes de Vincent n'auront pas été vaines, ni celles de Viviane. Les larmes de Vincent, les larmes de Viviane auront été séchées ce soir-là. Et ce soir-là, eh bien, toutes ces âmes généreuses qui étaient là, avec qui nous avons attendu, eh bien, ont laissé éclater cette joie, cette liesse vraie, pas la liesse... qu'on peut voir dans certains rassemblements factices qui passent et qui sont dans l'air du temps. Là, celle-là, elle restera parce qu'elle est fondée sur le vrai, elle est fondée sur l'essentiel. Et ce soir-là, je ne l'oublierai jamais.
dimanche 16 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 16 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils seront heureux de vous dédicacer leurs œuvres. À 11h30, conférence du professeur Paul Dehevels de l'Institut Mensonge, Mensonge. À 13h30, remise du prix Grand-Duc de la réinformation. À 14h, intervention de Marion Maréchal, les jeunes, la formation, la lecture. À 17h30, conférence de Jean-Paul Gourevitch, immigration et islamisation. Retenez, dimanche 16 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 euros, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation, et pour les personnes de moins de 26 ans.
Reprise, chers auditeurs. Après Jérôme Triomphe, je crois qu'il serait bon que Cécile Montmirail raconte cette soirée autour de laquelle, d'ailleurs, elle m'a envoyé quelques petits SMS pour me dire ce qu'il en était. Alors, Cécile.
Mais que dire après ce discours si beau de Maître Triomphe ? Mais c'est vrai que nous, humbles Français, spectateurs de ce spectacle qui nous a tant remués, conscients, bien sûr, comme vous le rappeliez, Jérôme, de cet enjeu pour cet homme, pour notre frère, Vincent Lambert, pour ses parents, mais aussi pour l'enjeu de civilisation que tout cela signifie. Car il y a quand même, dans cette affaire, la conscience très profonde que nous allions changer de civilisation. Et dans toutes les manifestations, celle de Reims la veille, où des centaines de personnes, pas 150 comme il a été dit partout, mais plus de 500 étaient devant les grilles, puisqu'il y avait plusieurs entrées à ce CHU. Donc il y avait plusieurs groupes de personnes, comme ce lundi soir, devant ce ministère de la Santé. Il y avait des gens avec des panneaux en disant « ne changeons pas de civilisation ». Parce que oui, la mise à mort d'un homme sans défense, cela voulait dire pour nous changer de civilisation et quelque part, comment ensuite rester intégré à cette société, comment rester dans leur matrice quand on réprouve fondamentalement ce qu'ils sont en train de faire. Et il me semble pour moi qu'il y a quelque chose dans cette affaire qui ressemble à ce très beau livre de Kleist qui s'appelle Michael Kolas, qui a été mis en film récemment, je crois, il y a quelques années, où cet homme il subit une injustice, on lui a tué ses chevaux, et il essaie d'obtenir justice. Et il va de recours en recours, comme vous l'avez fait pour Vincent Lambert, jusqu'à la plus haute autorité, et il est bafoué, on le rejette, il n'obtient pas justice. Et finalement, il rentre chez lui, il est dans un état profondément affecté, et sa femme lui dit « mais peut-être tu as pas su faire, je vais y aller ». Et puis on tue sa femme. Et là, Michael Kolas, qui est un honnête homme, qui a tout fait pour obtenir justice, bascule. Bascule dans la révolte. Et je crois que dans ces manifestations spontanées, vous avez dit, de gens pacifiques, il y avait cette conscience que l'injustice était trop, trop forte. Et que cela remettait en cause le regard que nous portions sur cette société à laquelle nous contribuons en tant qu'honnête homme et honnête femme. Et donc, ce lundi soir, il y avait une gravité devant ce ministère de la Santé. Les gens arrivaient un à un, quelques centaines d'abord, puis quelques milliers, contrairement à ce qu'il a été dit. Beaucoup de jeunes gens. Je pense 80% de jeunes gens, et puis aussi quelques vieux compagnons de combat qui étaient là avec nous. Et oui, un silence, une tension, quelque chose, on sentait que quelque chose de très grave, d'historique était en train de se passer. Et il y a eu plusieurs prises de parole avant que vous n'arriviez avec Jean Payot, des paroles très fortes d'un philosophe que je ne connais pas, qui justement disait « mais là, il se passe quelque chose de très grave. et nous ne pouvons pas l'accepter. Il y a eu aussi un témoignage très fort d'un homme en chaise roulante qui parlait avec une certaine difficulté, en tout cas pas à votre aisance, Maître Triomphe, et qui a dit son angoisse du cœur, parce que lui, disait-il, depuis son enfance, il avait besoin d'assistance pour être nourri, pour avoir une vie au quotidien, et que donc il se disait, mais on commence par Vincent, et puis après c'est qui? Il y a bien sûr les 1700 personnes qui sont dans le même état que Vincent Lambert, mais il y a aussi tous ces hommes et toutes ces femmes qui aujourd'hui sont handicapés, parce que là est le nœud du problème. Eux sont-ils utiles, et qui décide s'ils sont utiles à la société, puisque tel est le critère? Et donc cet homme, avec une très grande force, disait « Ne laissons pas tomber notre frère Vincent Lambert, parce qu'ensuite, ce sera peut-être moi. » Alors forcément, face à un tel témoignage, la foule était dans une très grande tension, et vous êtes arrivé avec votre frère d'armes, comme vous dites, Jean Paillot, pour nous donner les nouvelles de cette audience et pour témoigner de votre combativité. C'est sûr que quand on est impuissant dans la rue, juste là, avec sa présence, de voir qu'il y a des avocats capables d'aller jusqu'au bout, de ne rien lâcher, même quand il n'y a plus d'espoir, eh bien, on se met à espérer. Alors nous sommes partis dans les rues de Paris, entourés par des cordons de CRS en armes, avec un matériel incroyable sur eux, comme si nous étions là pour en découdre. Mais non, non, pour voir. Nous ne sommes pas là pour en découdre. Nous sommes là pour sauver la vie d'un homme. Et donc, à travers lui, de tous les hommes fragiles, dépendants, et puis de ceux qui, un jour, pourquoi pas, dérangeront. Parce que qui décide que cette vie-là ne vaut pas la peine d'être vécue? Ensuite, on ne sait pas quels seront les critères. Donc nous avancions sur ces allées très vastes. Nous avons traversé la Seine. Et donc nous connaissons, ou peut-être les auditeurs de Radio Courtoisie, qui ne sont pas tous parisiens, ne le savent peut-être pas, mais les ponts parisiens, surtout celui que nous a fait traverser, sont immenses. Et pourtant, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivaient. Alors ce n'était pas 100 000, mais c'est plusieurs milliers qui avançaient, et vous avez dit que nous soulevions notre pouce, et beaucoup de gens ne comprenaient pas ce que cela voulait dire, mais cela voulait dire comme dans les arènes où on condamnait à mort des gens, souvent des chrétiens, on demandait à la foule sa position par rapport au sort de la personne qui était vaincue au milieu de l'arène, et donc on le sait, le pouce en l'air voulait dire la vie. La vie. Et donc c'est ce que nous voulions dire dans cette marche. Nous avons aussi quand même crié quelques slogans. La vie pour Vincent, bien sûr, la vie pour Vincent. Le transfert. Le transfert de Vincent dans une unité où il pourrait bénéficier de soins. Parce qu'on dit l'arrêt des soins, mais en fait la réalité c'est qu'il n'a pas de soins. Et c'est cela qui nous scandalise. Et puis nous sommes arrivés sur ces Champs-Élysées, on nous a installés sur un pré. Alors il y a un pré dans le carrefour. Et nous avons attendu cette décision. Et il y a eu là aussi quelques témoignages. Je crois que c'était important qu'il y ait aussi des femmes qui parlent. Une mère de famille, infirmière, qui disait « J'ai peur en tant que mère, et puis j'ai peur en tant qu'infirmière ». Parce que qui va faire le sale boulot de leur décision de mort? Ce ne sera pas le président, ça c'est sûr. Mais il faut faire face à ça. Et elle disait, mais si on me demande un jour de ne pas nourrir mes patients, de ne pas les hydrater, mais qu'est-ce que je vais faire? Et on le sait que cette semaine, Beaucoup du personnel du CHU de Reims a pris des vacances. Pas pour rien. Parce qu'il ne voulait pas être complice de ce qui était en train de se passer. Et donc cette femme, jeune femme, disait en tant qu'infirmière, je ne peux pas accepter ça. Et je suis là. Et puis il y a eu aussi ce docteur merveilleux, cette femme, le docteur Kiefer, qui, elle, je crois, officie dans ces unités spécialisées et qui disait « Mais Vincent a le droit à cela. Il doit être là. Il n'a rien à faire dans une unité de soins palliatifs. Et donc, nous réclamons sa vie et son transfert. » Et donc, après ces témoignages, il y a eu ce silence. Ce silence, on dirait religieux, d'inquiétude, d'espérance. On vous regardait, vous et Jean Paillot, debout. La nuit était tombée, il y avait une ambiance crépusculaire. Les gens ne parlaient plus. Étaient les uns contre les autres, on était assez serrés, on était nombreux. Et il y avait ces minutes, et puis on nous avait annoncé 22h. Et puis 22h, pas de réponse. 22h05, 22h10, la tension était très forte. Et puis, je vous ai regardé et je me suis dit, c'est bon. Et puis, à côté de moi, il y avait Yvonne Soleil qui me dit, tu crois ? J'ai dit, non, peut-être pas, non, c'est ce que je souhaite. Et puis d'un coup, la délivrance s'est gagnée. Il y a eu un moment d'incrédulité, on s'est dit, mais est-ce qu'on a bien entendu ? Mais oui, c'est gagné ! Vincent Lambert va de nouveau avoir à boire et à manger. Est-ce possible ? Mais une explosion de joie. Nous nous sommes serrés dans les bras. Les gens qui étaient autour de nous, c'était tous des frères. Il y avait quelque chose de tellement important. Et aujourd'hui, on savait que Vincent allait vivre. On a entendu ensuite l'appel que vous avez... que vous avez mené avec Viviane, où vous lui annonciez en direct que son fils était sauvé. Quelle joie ! Quelle joie c'était ! Et là, d'un coup, sont arrivés des journalistes qui n'étaient pas là jusqu'à présent. Alors, il y avait des journalistes qui nous avaient suivis. Mais alors, les grands médias, là, sont arrivés pour vous interviewer, bien sûr. Pendant ce temps-là, les courageux soulevaient Jean Paillot et vous-même, pour vous porter en triomphe, et c'était bien mérité que de vous porter en triomphe, Maître Triomphe et Maître Paillot, pour cette immense victoire de civilisation que vous avez arrachée ce lundi. C'est une joie intense que vous nous avez donnée, c'est une victoire sublime. C'est un moment historique que nous avons vécu dans cette nuit parisienne encore chaude. Il faisait relativement chaud ce soir-là. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais Dieu, qu'elle était belle cette soirée, Maître Triomphe.
Quelle était belle.
Merci Cécile Montmirail de ce très beau témoignage. Je savais qu'il serait très beau, qu'il compléterait admirablement les propos de Maître Triomphe. Je salue Jeanne Smith qui vient d'arriver. Elle était à Rome, donc elle vient d'arriver. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Bernard.
Nous continuons l'émission. Ah, il y a des questions.
Permettez-moi quand même de dire, parce que Jeanne vient d'arriver. Jeanne, c'est la première à nous avoir accompagnés. Jeanne, c'est elle qui a révélé l'affaire de Vincent au grand public. Jeanne était avec nous le 11 mai 2013. Et... physiquement, je ne crois... Oui, physiquement, dans la salle d'audience.
Pas ce jour-là.
Pas ce jour-là, mais au téléphone.
Je me souviens. On s'était pas mal parlé pendant les jours
qui avaient précédé. Elle était avec nous par la pensée. Et je l'avais tenue informée de tout ce que nous faisions. Jeanne a été l'une des rares à avoir ouvert les yeux sur la sinistre loi qui permet de tuer léonétiquement.
Je me souviens en effet, Jérôme Triomphe, dont je salue le triomphe, le bien nommé. C'est vrai qu'en 2005, avec Yves Daoudal, nous avions écrit que la loi Leonetti était une loi euthanasique. Et je crois que vous l'avez découverte avec l'affaire.
Je l'ai découverte, moi, en 2013. Je me suis refait toute l'histoire ces derniers jours, ces dernières heures. J'ai été saisi par Viviane et Pierre Lambert le 6 mai 2013. Je ne connaissais rien à la loi Leonetti, sinon le nom. Et je me suis plongé dans la loi et dans les travaux préparatoires en une nuit, et j'ai découvert horrifié qu'en fait, le législateur permettait qu'on puisse tuer quelqu'un de faim et de soif. Et quand j'entends dire partout ce que malheureusement continuent à faire à la fois nos évêques, certains de nos évêques, mais également certains partis politiques, en disant ce qu'on fait à Vincent Lambert est scandaleux, c'est un dévoiement de la loi Leonetti. Non, c'est une application stricte de la loi Leonetti. Elle a été parfaitement interprétée par le Conseil d'État. Et la loi Leonetti-Claeys de 2016 n'a rien changé à sa nature profonde, mais n'a fait qu'apporter quelques précisions de détails.
En l'aggravant.
En l'aggravant, oui. Bien entendu. Donc, je voulais juste rendre cet hommage à Jeanne, parce que Jeanne aura été une de ces éveilleuses, pardon de le dire comme ça, c'est pas très joli, une de ces éveilleuses de conscience, et même mieux, une lanceuse d'alerte. Mais souvent, quand les lanceurs d'alerte alertent sur la vérité, ils crient bien souvent dans le désert. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de crier dans le désert pour dire que c'est Leonetti qui est la cause de tout cela.
Merci. Jérôme, je voudrais dire quelque chose. Je reviens de Rome, en effet. J'étais à une conférence, à un colloque de 2 jours sur la mort cérébrale qui était organisée par l'Académie Jean-Paul II pour la vie humaine et la famille, qui est l'Académie composée des membres éjectés de l'Académie pontificale pour la vie, qui est en train de se dévoyer, malheureusement. Donc, 2 jours où nous avons pensé précisément aux personnes comme Vincent Lambert. Je peux vous dire que c'est une académie catholique. Les prières n'ont pas cessé pour Vincent. Nous avons regardé dans cette salle à Rome, nous avons regardé la petite vidéo où on voit Vincent pleurer. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas un visage qui n'était pas bouleversé, brisé. On voyait la peine des gens. Et lorsque nous avons dîné, je suis sortie, j'ai eu un coup de fil de ma fille qui me dit « Je suis à la prière ». À la veillée de prière à La Roche-sur-Yon pour Vincent. Donc il y en a eu d'autres veillées, il y a eu d'autres rassemblements. Et tout d'un coup, elle me rappelle, elle me dit « Mais maman, c'est quoi ces histoires qui circulent? C'est vrai qu'il est sauvé ?» Alors là, l'explosion de joie, évidemment. Je peux vous dire que des Américains, des gens d'Hongrie, des gens de tous les pays qui étaient là, ça a été l'explosion de joie dans un restaurant de Rome. Pour la vie de Vincent Lambert.
Quelle heure était-il ?
Il était 22h50, puisque nous étions...
Voilà.
Nous avions su très rapidement, et je peux vous dire que nous avons compris, enfin, tout le monde a compris, quel était l'enjeu de la vie des gens qui sont dans cet état de faiblesse ultime, mais qui sont vivants.
Vous avez dit, Jeanne, quelque chose qui m'a marqué, et qui est très vrai, et je voulais rebondir dessus, c'est que... J'apprends que vous avez regardé cette vidéo de Vincent en train de pleurer, elle nous a tous arraché des larmes. Et quand les assassins nous accusent de nous battre pour Vincent par idéologie, non, c'est pour défendre une civilisation que nous le faisons. Mais nous nous battons d'abord pour défendre... parce que quand nous défendons des hommes, nous défendons des êtres de chair et de sang. Et nous défendons aussi... Nous voulons empêcher qu'il puisse être versé d'autres nouvelles larmes. Et les larmes de Vincent, les larmes de Viviane, les larmes de tous ceux qui nous ont aidés, sont les marqueurs de notre humanité.
Jérôme Triomphe, il y a encore des questions, beaucoup sont arrivées, mais qui se recoupent,
auxquelles vous avez d'ailleurs souvent
répondu
d'ores et déjà.
Oui, nous avons déjà vu tous les remerciements, merci à tous. Mais je veux juste préciser une chose, c'est que nous sommes une équipe extraordinaire. Je ne suis qu'un des maillons de la chaîne, qu'un des maillons de l'équipe, ce que nous avons fait, nous l'avons fait tous ensemble. Je n'aurais rien pu faire tout seul.
Alors, Maître Triomphe, la question d'un auditeur, est-ce que vous prévoyez d'écrire un livre qui relatera
Absolument.
L'affaire de Vincent Lambert ?
Absolument, c'est prévu. Il est hors de question d'écrire quelques livres que ce soit, tant qu'évidemment l'affaire est en cours. L'objectif, c'est que Vincent soit transféré. C'est notre combat, ça a toujours été notre combat, mais aujourd'hui il prend une nouvelle dimension, parce que je le précise tout de suite, à partir du moment où un CHU... où un médecin a prétendu violer les mesures provisoires qui ont pourtant été déclarées, rappelées dont il a pourtant été rappelé qu'elles étaient obligatoires, c'est le droit international, par le défenseur des droits, qui n'a pas voulu faire pouvoir d'injonction comme il en avait le pouvoir auprès du gouvernement, ce qui restera là également dans les annales. Et, mais il a rappelé que c'était une obligation. Eh bien, ce CHU et ce docteur qui n'ont pas respecter ses obligations, se sont définitivement décrédibilisés et délégitimés à garder Vincent. Donc, de toute manière, ils le savent. Ils savent que ce transfert est inéluctable et c'est évidemment la prochaine étape. Mais nous n'avons pas voulu écrire ce livre, d'abord, parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est, vous savez, cette affaire, depuis 2013, ce sont des milliers de pages que nous avons écrites. Ce sont des dizaines de milliers de pages de pièces. Et il faudra faire une synthèse de tout cela, raconter ce qui s'est passé, donner les noms, dire quel était le rôle de tous ceux qui ont agi et de ceux qui n'ont pas agi, dénoncer les lâches, dénoncer les assassins et dénoncer la perfidie intrinsèque de ce qui est la cause de cette loi, c'est la loi Leonetti. Nous le ferons et ce livre a déjà un titre. Puisque le 7 janvier 2015, le docteur Carigère avait écrit « Ma vérité » sur l'affaire Vincent Lambert. Il est poursuivi pour cela. Ça a été confirmé. Il est poursuivi pour violation du secret médical. Et nous, eh bien, il nous a donné le titre lui-même. Nous écrirons « La vérité » sur l'affaire Vincent Lambert.
Alors, quelques questions encore, mais il faudra bientôt arriver à la conclusion de cette émission dont je parlerai. Pour dire aux auditeurs quelle utilisation doit en être faite. Allez-y, Hortense.
Des questions qui concernent justement le transfert de Vincent. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour obtenir ce transfert? Est-ce que Rachel Lambert aurait la possibilité de s'y opposer?
Rachel Lambert est tutrice, elle fait la pluie et le beau temps. Donc, nous avons un certain nombre d'actions que nous avons déjà mises en œuvre. Mais je ne peux pas en dire plus, vous le comprenez, parce que le succès des actions repose également sur une certaine discrétion. Mais c'est l'objectif.
Il y a un autre aspect de cette affaire, Maître Triomphe, et puisque vous évoquiez le travail magnifique de Jeanne Smith concernant cette affaire, c'est le travail journalistique. Il y a quand même quelque chose de très étonnant, puisque nous étions lundi avec vous sur cette place. On a vu des journalistes également à Reims, souvent de très jeunes journalistes d'ailleurs, qui ne connaissaient rien à l'affaire, qui venaient. Il se trouve que l'ayant été, je discutais avec ces jeunes gens pour essayer de leur faire comprendre. Ils n'avaient pas du tout préparé. Ils arrivent avec leur matériel pour prendre des sons. Et ils prennent des sons donc de vous, des gens qui témoignent. Et puis quand on écoute la radio ou le lendemain, on retrouve pas du tout ce qui s'est dit.
Donc ça fait 6 ans que je le vis.
Comment l'interprétez-vous ?
Mais je vais vous dire, c'est simple. Les médias, les grands médias. Quand je dis les grands médias, il faudrait dire les médias mainstream, mais ici c'est interdit. Alors je ne sais pas comment il faut dire. Les médias dominants ont un logiciel et nous, on nous l'a dit, mais nous le savions. Mais on nous l'a dit, un journaliste honnête, parce que individuellement, chaque journaliste est honnête et peut-être ébranlé et touché. Mais le problème, c'est qu'ils ont un logiciel et que ce logiciel permet de mettre tous les éléments dans des petites cases. Et quand on leur parle de la vérité sur Vincent, ils notent gentiment, ils disent « ah oui, ah oui, ah oui ». Et le lendemain, rien ne transparaît, et ne transparaît que ce qui a été décrété par la salle de rédaction. On nous l'a dit pas plus tard qu'hier, un journaliste honnête, qui dit « Non mais ce que vous me dites est absolument incroyable. Bon, bah, alors vous allez faire un papier. Non, je ne peux pas. Il y aura opposition de la rédaction. » Parce que ça ne correspond pas au discours qui doit être tenu sur Vincent Lambert. Vincent Lambert doit être un légume branché à la machine. À telle enseigne d'ailleurs que jusqu'à présent, on arrêtait les traitements de Vincent, mais depuis qu'on s'apprête à les arrêter, effectivement, maintenant, le sort est conjuré, mais on parlait d'arrêter les traitements. Et maintenant que, concrètement, le lundi, le docteur Sanchez a arrêté l'alimentation et l'hydratation, les journalistes ont repris une dépêche AFP disant « Le docteur Sanchez a arrêté les machines à hydrater et à alimenter. » C'est tellement satisfaisant pour la conscience de ces gens-là. Or, il n'y a aucune machine à alimenter et à hydrater. Ça n'existe pas. C'est une invention. Et étant une invention destinée à justifier les choses, c'est un mensonge.
Nous approchons de la fin de notre première partie. Nous n'avons pas abordé, je ne l'ai pas souhaité, parce qu'au fond, ça aurait peut-être abaissé la solennité qu'il y avait dans vos propos, Jérôme Triomphe et Cécile Montmirail. Mais vous parlerez peut-être tout à l'heure de M. Macron, parce que j'ai commenté évidemment M. Macron et son communiqué qui était, hélas, je ne le qualifierai pas. Allez, voilà. En revanche, je voudrais dire quelque chose très solennellement. Cette émission mérite non seulement d'être écoutée par vous auditeurs, mais d'être répercutée. Je demande à chaque auditeur, au flot des questions que nous avons, nous savons que vous êtes des dizaines de milliers ce soir à nous écouter, ça sera peut-être des centaines de milliers. Et ça, c'est dû à Radio Courtoisie. Et donc là, je sais que cette radio peut être critiquée, je sais qu'on lui fera des reproches parce qu'elle n'a pas... La vérité, c'est qu'elle n'a pas les moyens de France Inter, de France Info, elle n'a pas le financement qu'il faudrait, mais... Le travail que fait Radio Courtoisie dans cette affaire Lambert, ce travail donc pour le respect de la vie, est considérable. Et je vous demande, chers auditeurs, de faire écouter cette émission. Techniquement, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes capables de tout, de podcaster, comme l'on dit, de répercuter, de faire écouter. Alors, je vous donne cette consigne, donc de faire écouter cette émission, c'est aussi aider Radio Courtoisie. Et nous retrouverons d'ailleurs à la fête de Radio Courtoisie, le 15 juin, un certain nombre d'entre nous, je sais que Cécile Montmirail sera là, Jérôme Triomphe sera là, Jeanne de Smith sera là, vous pourrez donc venir les saluer. Voilà. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je lance un appel pour que cette émission soit répercutée, réentendue, parce que ça va jouer dans la suite du combat, parce que ça n'est pas terminé.